Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.
Bienvenue à tous, merci encore une fois de nous suivre dans le cadre de cet espace dédié à l'économie sur Radio de la Paix. Economia aujourd'hui, un autre rendez-vous qui s'intéresse à ces notions de l'hyperinflation et la déflation, et cela dans le cadre de notre regard sur comment fonctionne le monde. Nous sommes avec Faustin Onozon pour nous parler justement de ces sujets. Ce sera bien sûr dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie mondiale et nous le recevrons dans quelques minutes bien avant. Vous aurez aussi votre rubrique Le Lexique Économique et puis vers la fin de ce rendez-vous, les tendances de la bourse avec Obris. Voici les principales articulations de ce numéro d'Economia. Bienvenue à tous et merci de nous suivre.
Le lexique économique. La déflation.
La déflation peut se définir comme l'opposé de l'inflation. Elle se caractérise par une baisse continue et au taux entretenu du niveau général des prix. Les salaires baissent dans ce cas-là, les embauches se raréfient, le chômage progresse, ce qui finit par affecter aussi le revenu des ménages. Il s'ensuit une nouvelle baisse de la consommation.
Le déficit public.
Le déficit public correspond à un solde annuel qui est négatif du budget des administrations publiques et plus généralement du budget de l'État. Les dépenses sont alors supérieures aux ressources, ce qui nous amène à parler du déficit public. À l'inverse, si les ressources étaient supérieures aux dépenses, on parlerait d'excédent public.
Le solde du commerce extérieur.
Le solde du commerce extérieur, c'est la différence entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays ou entre deux zones.
Regard sur la gestion économique nationale.
Regard sur la gestion donc de l'économie nationale, mais aujourd'hui c'est surtout l'économie mondiale qui nous intéresse et nous parlons d'inflation. Pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée, nous parlons en tout cas de la situation actuelle vécue par le monde. C'est un constat selon les dires de M. Onozon. Le monde donc vit un peu au ralenti au plan financier, n'est-ce pas? Alors M. Onozon, bonjour.
Bonjour M. Koumi.
On va rappeler un peu cette notion développée la semaine passée. Vous parliez d'inflation. L'inflation, c'est quoi déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet?
La semaine passée, on avait défini l'inflation comme étant l'augmentation du niveau général des prix, c'est-à-dire tous les prix. Ce n'est pas un seul prix qui est concerné, c'est les prix de tous les produits. Voilà ce que c'est que l'inflation.
En tout cas, c'est une situation que nous vivons, l'augmentation de prix de plusieurs produits. C'est vrai que ça fait partie de la vie économique d'un pays. Il y a des moments où il y a l'inflation, donc, où il y a des moments aussi où on réussit à juguler et tout ça.
Ah oui, je pense que pour ce qui nous concerne surtout au niveau de l'Union économique et monétaire, nous sommes en train de maîtriser cette inflation. Et il faut dire que avant la pandémie, le taux le plus élevé était de 2%. Alors l'objectif est de ramener cette inflation à 2%, qui elle se situe actuellement aux environs de 4-5%. Donc l'objectif est de ramener cette inflation à 2%. Vous voyez qu'on n'est plus trop loin. Même jusqu'à 3%, je pense que c'est bon. Et à cause du déficit des finances publiques, dont le taux est de 3%. Donc 2%, 3%, je pense que c'est un taux optimal qu'on peut accepter.
Justement, pour y arriver, c'est vrai, c'est l'objectif des économistes, mais pour y arriver, on doit faire quoi? Les populations doivent encore, serrer la ceinture ou quels sont les mécanismes qui s'offrent, notamment à l'économie ivoirienne?
Non, les populations ne doivent pas serrer la ceinture. Ce que nous avions fait par le passé, pour en arriver là, c'était la relance économique et financière. Et cette relance économique et financière continue. Nous avons eu jusque-là un taux de croissance positif. C'est ce que nous regardons d'ailleurs. Si le taux de croissance baisse d'année en année, on peut dire qu'il faut changer certainement des politiques économiques et financières. Mais ici, en Côte d'Ivoire surtout, et je dirais même dans l'Union en général, la politique économique et financière qu'on met sur pied, c'est une politique qui est axée largement sur la gestion de la demande globale, c'est-à-dire l'investissement et la consommation. Donc la somme de ces deux paramètres, lorsqu'on les augmente, surtout l'élément déclencheur, c'est l'investissement. Alors, lorsqu'on augmente l'investissement, il va sans dire que cela aura un impact positif sur les emplois, c'est-à-dire la consommation. Et dès lors où on consomme, c'est qu'on met en route véritablement ce qu'on appelle le sort du commerce extérieur, c'est-à-dire la combinaison des exportations et importations. Et ce qu'on demande à un pays, c'est que cette combinaison donne un solde, j'allais dire, positif, pour qu'on ait une balance des paiements positive, ne serait-ce qu'au niveau de la première ligne. Donc en Côte d'Ivoire, l'optique en matière de gestion de la politique économique financière nous va tellement bien, parce que depuis plus de 10 ans, en dehors de l'année où il y a eu la pandémie, où on a eu à peu près, je crois, 2% certainement de taux de croissance, et notre taux évoluait entre 7, 8, 9 %. Essayez de voir un peu ce que l'économie a dû engranger dans ce contexte tout à fait exceptionnel. Et il y a une richesse exceptionnelle et cette richesse continue d'ailleurs. Donc, en Côte d'Ivoire, notre politique économique est une politique économique qui est tout à fait cohérente.
Cohérente, mais je remets aussi sur un aspect. Vous parlez du taux, les taux donc, de croissance qu'on a eu sur une longue durée. Certains économistes ou certains observateurs estiment que ce sont des croissances appauvrissantes de fois. Quel est votre avis à ce niveau?
Oh oui, vous savez que quand il y a une croissance au niveau d'un pays et que certains n'en bénéficient peut-être pas directement, ils estiment tout simplement que ce sont des croissances appauvrissantes. Mais c'est une moyenne qu'on prend habituellement.
C'est cela.
Et lorsque vous entrez dans ce que nous avons pu avoir dans le cadre de cette croissance économique et financière, vous allez constater que les investissements ont augmenté d'année en année. Et ces investissements sont d'ailleurs visibles. Lorsque vous allez un peu partout à l'intérieur, comme ici même dans les différentes capitales, vous voyez bien les investissements qui ont été faits. Mais ces investissements ont entraîné aussi beaucoup d'emplois. Voilà. Et ce ne sont pas seulement les emplois liés directement aux investissements. Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, il y a eu des emplois qui ont été créés. Et donc le niveau de la consommation il y a 10 ans n'est pas le même niveau actuellement.
C'est cela.
Ces niveaux ont largement augmenté. Et quand vous allez au niveau du commerce extérieur, vous allez voir que nos exportations, nos importations, que quand on prend l'époque d'où il y a 10 ans, sinon plus, et maintenant, ce sont des importations, des exportations qu'on a pu mettre sur pied d'une manière tout à fait exceptionnelle, tellement que le niveau est important. C'est vrai que là, vous êtes en train d'entrer dans l'IDH, dans l'indice du développement humain, mais j'ai dit que ce sont des dispositions qui sont très lentes. Mais une fois qu'elles arrivent au niveau de tout le monde, bien, ce sont des dispositions qui continuent à avoir des aspects tout à fait positifs.
En tout cas, dans ce même sens, sûrement en faisant ce constat-là, il y a un programme en Côte d'Ivoire, le PSGOV, donc le plan social du gouvernement, pour essayer sûrement de rattraper ces aspects dont vous parlez, pour redistribuer cette richesse-là, permettre de toucher un maximum de personnes. On sait qu'il y a les filets sociaux aussi, pour inciter les plus démunis à pouvoir avoir de la ressource, quitte à investir pour créer de la richesse éventuellement, puis participer à l'économie en consommant.
Tout à fait. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les dépenses pour pauvres, qui sont des milliers et des milliers de Français CFA, et qui sont mis sur pied chaque année dans le cadre du budget de l'État. Et ce sont ces dépenses-là qui permettent à ceux qui n'ont pas véritablement les moyens de vivre correctement ou alors d'une manière un peu plus décente. Et donc, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Le volet qui relève de la pauvreté est un volet qui est pris très au sérieux par les différents gouvernements.
Pris très au sérieux. Alors, on revient bien sûr au mécanisme pour lutter contre l'inflation. Mais est-ce que le fait de remonter le taux directeur ou deux fois essayer de juguler, il n'y a pas aussi des effets pervers pour l'économie?
Si, il peut y avoir des effets pervers. C'est ce que je disais. Lorsque on n'a plus accès au capital, parce que c'est avec le capital qu'on fait la relance économique et financière. Lorsque vous allez au niveau de la banque et puis vous constatez que le crédit devient trop cher, mais vous n'allez plus aller à la banque comme par le passé. Et cela peut avoir des répercussions négatives sur la gestion de la politique économique et financière. Mais je disais tantôt que lorsqu'il y a eu la relance, il y a eu beaucoup d'aspects positifs. Les entreprises ont pu être servies et aujourd'hui, elles ont mis sur pied des politiques économiques et financières internes qu'elles sont en train d'organiser actuellement, avec lesquelles elles vivent. Donc, c'est vrai, il peut y avoir des effets pervers, mais lorsque le gouvernement suit de près toutes les activités économiques et financières, il y a certaines actions qu'on peut effectivement prendre pour telle ou telle structure économique et financière.
Alors, mais à quel moment parle-t-on de déflation? Justement, est-ce que nos économies, pour parler de l'UMOA ou de la Côte d'Ivoire, on est à ce niveau-là ou pas, selon votre constat?
Oui, au niveau de l'UMOA, on n'est pas encore dans le cadre de la déflation, mais c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'elle vienne, parce que quand elle vient pour repartir, ce serait un peu difficile, c'est comme une maladie. Quelquefois, même, elle devient une maladie incurable. Mm-hmm. Il y a certains pays dans le monde qui sont entrés en déflation, mais depuis pratiquement 20, 25, 30 ans, qui restent dans le cadre de cette déflation.
Fort heureusement. Justement, la déflation, c'est quoi, pour expliquer simplement?
Bon, tout à l'heure, on avait dit que l'inflation, c'était la hausse régulière du niveau général des prix. Mm-hmm. Mais la déflation, c'est l'autre volet. C'est la baisse régulière du niveau général des prix.
Ah bon? Voilà. Cela est dû à quoi?
Eh bien, on mène des politiques économiques et financières quand il y a une inflation. Mm-hmm. Et généralement, l'inflation, elle commence à être véritablement prise en compte quand elle devient une inflation galopante. Une inflation galopante, c'est celle qui atteint déjà les deux chiffres. 10%, 11%, 12%. Mm-hmm. Lorsqu'on est au-delà des 10%, c'est qu'on est dans l'hyperinflation. À 10%, déjà, on peut parler d'une inflation galopante. Et quand on descend, on quitte l'hyperinflation pour venir à l'inflation, j'allais dire galopante, c'est qu'on est dans la désinflation. Et lorsqu'on quitte les 10%, on va aller à l'inflation avec un taux optimal. Chez nous, ici, c'est 2%. On pourrait même aller jusqu'à 3%. À 2 ou 3%, c'est ce qu'on recherche. Puis avec ce taux-là, les entreprises peuvent faire des bénéfices. Et l'État aussi peut en profiter énormément. Mais lorsqu'on descend, on va en dessous de 2%, c'est qu'on est en train d'aller vers la déflation. Parce qu'à un moment donné, on va atteindre une inflation qui est nulle. Et ce n'est pas bon pour une économie. Voilà. Et après l'inflation nulle, ça dit zéro. Il y a des inflations. La déflation vient à proprement parler parce que vous aurez à avoir une déflation de l'ordre de moins 2%, moins 3%, moins 4%. C'est comme si vous fabriquez un produit dont les intrants ont coûté peut-être 4 000 francs. Alors, il vous faut un bénéfice en tant qu'entrepreneur.
C'est ça.
Et le produit va coûter 5 000. Alors, lorsqu'il produit va bénéficier du taux d'inflation optimal de 2%, on va peut-être passer à 5 100 francs. Et là, on s'enrichit toujours. Mais lorsqu'on va en dessous des 5 000 francs, vous voyez que l'opérateur économique, mais il perd de l'argent. Et le problème fondamental, c'est que quand c'est comme ça, les populations sont dans une position attentiste. Eux, ils attendent à ce que le prix des différents produits baisse très fortement, pour qu'ils aillent acheter ces produits. Or, plus ces produits-là, les prix baissent, moins les entrepreneurs gagnent de l'argent, c'est-à-dire ils ont moins de profit, d'ailleurs ils n'ont même pas de profit, ils sont dans ce qu'on appelle la perte régulière. Et là, ça a un impact négatif sur la fonction de production. C'est-à-dire, l'investissement prend un coup, la consommation elle-même ne suivra pas, et puis le solde du commerce extérieur, bon, ça va prendre un coup. On aura une variation négative de la production nationale. On aura un taux de croissance négatif, alors que c'est le taux de croissance positif qui entraîne une augmentation de la richesse nationale.
En tout cas, on a eu un véritable cours, hein, l'hyperinflation, l'inflation qui est galopante, qui se réduit, et puis on a la déflation. On va en parler, hein, justement, de la déflation dans notre prochain numéro.
Tendance de la bourse.
Troisième partie de cette émission, nous sommes avec notre consultant habituel, Kwao Brice, pour parler justement d'un sujet. On retourne donc à la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. On a décidé avec donc nos consultants de nous intéresser à cette structure. Monsieur Kwao, bonjour.
Bonjour Monsieur Komé, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, pour situer en tout cas nos auditeurs sur l'importance de ce sujet, la BRVM, on l'a dit dans une de nos émissions, c'est une structure sous-régionale.
Oui, effectivement, c'est une bourse sous-régional à l'instar des autres institutions qu'on a. Donc, dans ce cadre-là, on peut retrouver à la BRVM des entreprises ivoiriennes ou des entreprises burkinabées, nigériennes et autres. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de présenter un peu quelques entreprises pour que vous compreniez que quand on parle de bourse, il s'agit vraiment d'entreprises que vous connaissez, qui sont dans des pays dans lesquels vous êtes. Et avec ça, nous estimons que ça peut vous permettre de passer un cap. En tout cas, le cap de la peur, de l'inconnu, là, qu'on va citer les noms, vous verrez que c'est des entreprises tout à fait connues.
Justement, pourquoi une entreprise juge nécessaire de se retrouver en bourse?
Bon, comme on a dit, il y a au cœur de cette question-là le besoin en financement, la recherche de capitaux. Donc, une entreprise entre en bourse ou un État émet des obligations en bourse pour lever des fonds. Et cela permet de financer des projets de développement. Et par la suite, les investisseurs récoltent une partie des profits réalisés par cette entreprise-là. Donc, ça, c'est la raison fondamentale.
La raison fondamentale. Alors, à la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, qui a son siège à Abidjan, se trouve combien d'entreprises?
entreprises.
Il y a 45 entreprises cotées à la BFM.
On peut dire que c'est peu. Hein. Pour 8 pays, 45 entreprises, c'est quoi l'explication?
Bon, l'explication trouve son origine en partie dans l'émission qu'on anime. Hein. L'absence de culture boursière est partagée par les populations et par les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est juste des gens qui viennent de la population. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la bourse en tant qu'épargnant, il ne la connaîtra pas plus en tant qu'entrepreneur. Ce sont des instruments qui sont, je ne dirais pas nouveaux, puisqu'ils existent quand même depuis 1998, mais nouveaux pour les populations. Donc, on doit expliquer aux gens ce que c'est, ce qu'on y fait, ce qu'on y gagne, pour qu'en tant qu'épargnant, ils placent leur argent ou en tant qu'entrepreneur, ils cotent leurs entreprises.
Alors, quelles sont les catégories d'entreprises, justement, qu'on peut trouver à la BRVM?
Bon, on en avait parlé aussi déjà, il s'agit des grandes entreprises actuellement. Il y a un compartiment qu'on a ouvert, le troisième compartiment, qui va abriter dans les années à venir les PME, PMI. Mais actuellement, toutes les entreprises que vous trouvez font partie de ce qu'on appelle les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont classées en fonction de plusieurs critères. La capitalisation boursière notamment, le nombre d'années de comptes certifiés et le taux de marge chiffre d'affaires. Donc, on a deux compartiments pour les grandes entreprises. Le premier compartiment comprend les entreprises qui ont une captation de plus de 500 millions et un taux de marge net sur chiffre d'affaires de 3% sur les trois dernières années, avec 5 années de comptes certifiés. Donc, c'est sur ces critères-là que ces entreprises-là présentent des dossiers qui sont validés par le régulateur et à partir desquels elles sont reçues. Donc, récemment, on a eu le groupe Aura, on a eu EcoBank NC, ainsi de suite sur les dernières années. À côté de ces grandes entreprises-là, on peut dire qu'il y a des moyennes, dont une captation boursière de 200 millions, deux années de comptes certifiés. Et ces deux groupes-là forment les entreprises qu'on trouve actuellement à la BFM. Il y a un troisième compartiment qui a été créé, qui est le compartiment des PME, PMI, qui lui a d'autres conditions qui ont été mises à jour même récemment, je crois. Donc, comme on n'a pas encore d'entreprise, je ne vais pas m'étaler sur ces conditions-là, mais c'est probable que dans les 2-3 prochaines années, on ait des PME qui arrivent.
Vous notiez aussi l'hésitation de certaines entreprises à aller à la bourse. Justement, quels sont les avantages d'être présent?
Bon, on a déjà la notoriété. On a aussi le fait d'acquérir des financements à des coûts qui sont acceptables pour l'entreprise. Comme on l'a dit dans nos précédentes émissions, en bourse, c'est l'entreprise ou c'est l'État qui définit les conditions de son financement. Donc, en termes de coûts, en termes de durée, en termes de mode de paiement, c'est l'entité qui lève les fonds, qui dit voilà comment je peux rembourser, voilà sur quelle période je peux rembourser. Le fait de pouvoir moduler ces conditions de financement permet à l'entreprise d'avoir l'argent comme un avantage. Dans le système classique, notamment le système bancaire, c'est la banque qui dit comment elle veut que vous le remboursiez. Donc, des fois, le taux, la durée ne cadre pas avec vos problématiques d'entreprise. Récemment, un article a été publié sur la maturité des crédits en 8 mois à partir du rapport de la commission bancaire. Il semblerait que 70% des crédits en 8 mois aient une maturité de moins de 12 mois. Donc, ça vous donne un peu le niveau de risque que les banques sont prêtes à prendre. C'est-à-dire pas grand-chose en fait. Trois quarts des financements, c'est des financements de courte durée. Donc, dans ces conditions, les entreprises qui passent sur les systèmes bancaires n'ont pas accès à un financement qui leur facilite la tâche en tant qu'entrepreneur. Alors qu'avec le système financier, la bourse, c'est elles qui vont structurer l'offre, qui vont dire, on prend du financement pour 5 ans, on prend du financement pour 7 ans ou pour 10 ans.
Alors, Monsieur Kwa, on va être concret, hein, justement, vous avez parlé des trois catégories, deux catégories qui sont déjà effectives au niveau donc de la BRVM et puis la dernière qui est à venir. Alors, dans ces deux catégories, quelles sont les entreprises qu'on peut citer?
Le secteur de l'industrie, il y a l'entreprise Filtisac, l'entreprise Uniwax, l'entreprise Solibra, que je peux proposer comme exemple. Au niveau du secteur des services public, il y a la CIU Sodici qui sont présentes. Au niveau de la banque, BCC, SGBCI, NCA Bank et EcoBank sont à la BFM. Au Burkina, par exemple, il s'agit de Coris Bank et BEA Mali sont présents. Au Sénégal, BEA Sénégal. Au Niger, BEA Niger. Au niveau du transport, le groupe Bolloré est présent à la BFM. Au niveau agricole, les filiales du groupe Sifka, donc SAPH, Sucrivoire, Palmsi, sont présentes à la BFM. Le dernier secteur, le secteur de la distribution, prend en compte les pétroliers, donc Total Côte d'Ivoire, Shell, Côte d'Ivoire, les vendeurs de voitures, comme je les appelle, CFAO, Tractafric, sont là. On a d'autres, voilà, comme ça. Donc, voilà un peu pêle-mêle les entreprises qui sont à la BFM. On n'a pas cité les 45 pour des raisons évidentes, mais on a cité ces cas-là pour que vous compreniez quand on parle d'investir à la BFM. On ne parle pas d'entreprises abstraites. On ne parle pas de gens qui se sont créés avant-hier et qui veulent votre argent. Ce sont des entreprises établies qui tiennent des secteurs d'activité, qui sont leaders et qui aujourd'hui vous proposent d'avoir accès à une partie de leur capital. Ça fait bien longtemps qu'elles se sont introduites en bourse à une époque. Quand elles se sont introduite à l'époque, ce n'était même pas des fois pour lever des fonds. C'était des fois pour permettre à un actionnariat local ou pour permettre à l'État de se désengager, ce genre de choses-là. Donc la BFM était le canal par lequel l'État a levé des fonds en vendant ses actions au grand public. C'est juste qu'il y a des politiques économiques, il y a des philosophies rattachées à chaque politique. La philosophie actuelle qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est la philosophie libérale. Donc, dans l'économie libérale, l'État se désengage de l'activité de production en tant que telle. Donc, l'État crée un cadre dans lequel les entrepreneurs peuvent initier les activités sans être lui-même le moteur de l'activité.
Voilà, vous êtes situé à mes auditeurs justement sur l'importance de la BRVM. Voilà, c'est la structure sous-régionale en ce qui concerne la bourse, donc dans ces 8 pays de l'UMOA. Nous avons été heureux de passer ces moments à votre compagnie. On se retrouvera la semaine prochaine encore. Monsieur Kouaou, merci infiniment de toutes ces informations.
Merci Monsieur Koumé, merci à tous les auditeurs et rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre davantage sur le sujet.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.